Vous écoutez Europe 1. Il est 19h.
Europe 1 soir.
19h, 20h.
Hélène Zelani.
Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner jusqu'à 20h dans Europe 1 soir. Un chiffre pas vraiment rassurant. En 2023, les assassinats et règlements de compte ont explosé plus 38%, la moitié s'est déroulée à Marseille, là même où une opération PlaceNet est en cours contre le trafic de drogue. Bercy envisage un dérapage du déficit public pire que prévu pour l'année passée, 5,6% du produit intérieur brut, pas assez de rentrée d'argent, trop de dépenses, comment y remédier? On va en parler avec le député Renaissance Jean-René Cazeneuve, il est rapporteur général du budget. Des lycées d'Île-de-France visés par une attaque informatique, Gabriel Attal promet de traquer les auteurs et de les sanctionner. Que faire contre les cybercriminels? On va en parler juste après ce journal avec Nicolas Arpagian qui est spécialiste des risques numériques et vous pouvez témoigner au 01 80 20 39 21. On évoquera aussi ce phénomène mondial inquiétant, la baisse de la fécondité avec le professeur Samir Amama. Il est responsable du département de biologie de la reproduction au CHU de Montpellier. Rendez-vous à 19h45. Dans ce journal également, une enseignante renvoyée en correctionnel pour harcèlement à l'encontre de la petite Evaëlle, 11 ans. Elle s'était suicidée en 2019. Une fraude au permis de conduire dans les Bouches-du-Rhône. Et puis, le tennis, les billets pour Roland-Garros s'arrachent à 2 mois de l'ouverture du tournoi, dont Europe 1. Et il faut le signaler à nouveau la radio officielle. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Hélène.
La tendance météo.
Alors ambiance printanière avant une dégradation par le nord-ouest et dans une ambiance nettement rafraîchie. On fait un point complet à la fin du journal.
À tout à l'heure. Europe 1. On parle beaucoup de Marseille, narco-ville, de ces narcomicides. Marseille où l'opération PlaceNet se poursuit donc aujourd'hui. Et la police publie le bilan des assassinats, des tentatives d'assassinat entre délinquants et des règlements de compte dans toute la France pour 2023. Des chiffres en forte hausse, Jean-Baptiste Marty, plus 38%. Et la ville de Marseille est surreprésentée.
Oui, car à elle seule, Marseille concentre plus de la moitié des assassinats, 49 sur les 85 recensés partout en France. Marseille, vous l'avez dit, théâtre d'une opération XXL depuis 3 jours. 4000 policiers et gendarmes investissent les différents points de deal de la ville. Une opération qui doit durer 3 semaines. Mais au-delà de la cité phocéenne, de nombreuses autres villes sont également touchées. C'est le cas de Nantes, Grenoble ou encore Lyon. Mais plus surprenant, des petites villes sont aussi impactées comme Dijon, Amiens, Besançon ou encore Valence où 4 personnes ont par exemple perdu la vie lors de conflits entre groupes criminels en avril et mai 2023. Alors face à ce phénomène inquiétant, les autorités intensifient leur lutte contre le trafic de drogue et ses règlements de compte et cela passe par la recherche d'armes. 8000 ont été saisies l'année dernière et parmi elles, 300 armes de guerre.
Et on parle de la drogue à Marseille, vous ne le savez peut-être pas, mais la principale porte d'entrée de la cocaïne en France, c'est la voie maritime. Justement cette semaine, ce sont 2,7 tonnes qui ont été saisies sur le port du Havre. Une drogue cachée dans des caisses de déménagement qui venait de Guadeloupe. Ce type de saisie n'étonne pas Bruno Bartosetti du syndicat SGP Police.
Les meilleurs moyens de transport pour les narcotrafiquants restent la mer. C'est beaucoup plus facile pour eux. On part d'Amérique latine et puis on passe bien souvent par des ports qui sont soit au Nigeria, soit au Sénégal, en fait tous ces ports africains, où on peut payer beaucoup plus facilement certains fonctionnaires. Cette corruption permet de passer les frontières sans contrôle. Comme il y a très peu de chances, ou de malchance en tout cas, de se faire intercepter avec une cargaison de cocaïne, eh bien on remplit le conteneur et on arrive à se saisir au corps. Il y a de nombreux bateaux, il y a de nombreux cargos de fret et de nombreux containers qu'on a du mal à contrôler. En manque de moyens, on va vérifier à peu près 2-3% de containers. Il y a très très peu de contrôles qui sont faits de manière massive. On ne peut pas bloquer tous les bateaux pendant des jours et des jours pour contrôler. C'est malheureusement impossible, on manque de moyens pour cela.
Des propos recueillis par Guillaume Dominguez. Et puis après l'attaque du commissariat de la Courneuve, 9 jeunes avaient été arrêtés. 6, dont 2 mineurs, sont renvoyés devant un tribunal. Les autres ont été libérés sans poursuite. Les 4 majeurs seront jugés à la mi-mai et devraient d'ici là rester en détention provisoire.
19h, 20h.
Hélène Zelani.
Nous sommes dans le rouge et encore plus que prévu. Mardi, on connaîtra précisément le déficit public pour 2023, mais une chose est sûre, il dépassera les 4,9% du PIB prévu par le gouvernement, autour de 5,6%. Il faut faire des choix, prévient Emmanuel Macron.
La France doit être claire, nous devons être responsables en termes de finances publiques et garder nos ancres. Nous devons gagner la bataille de la réindustrialisation du plein emploi et gagner la bataille des transitions. Ce sont des choix de finances publiques et des choix politiques.
Alors des choix, certes, mais l'opposition se demande comment on en est arrivé là. Jean-François Husson, rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, s'est rendu à Bercy cet après-midi. Il voulait en savoir plus sur l'ampleur du déficit, Barthélémy Philippe, et ses conclusions sont inquiétantes.
Oui, Bruno Le Maire avait annoncé que l'objectif d'un déficit à 4,9% du PIB en 2023 ne serait pas tenu. Mais la situation est plus grave que prévu. Le déficit devrait s'établir à 5,6% selon le sénateur LR Jean-François Husson, soit une différence de 20 milliards d'euros. Toujours selon le sénateur, le gouvernement savait dès le mois d'octobre que la croissance ralentissait et que les recettes de TVA baissaient. Et pourtant, il n'a pas modifié le projet de loi de finances.
Le gouvernement a choisi de ne pas intégrer le coup de foie dans la discussion du projet de loi de finances. Le gouvernement a donc fait un pari dangereux alors que les signaux étaient au rouge.
Le résultat, c'est qu'il va falloir aller bien au-delà des 10 milliards d'euros d'économies annoncées par Bercy pour 2024 et des 20 milliards d'euros pour 2025.
Le virage du décret qui procède à 10 milliards de coupes budgétaires n'est qu'un avant-goût amer pour la potion que va proposer le gouvernement.
Tout cela est faux, répond Bercy. On communique quand les informations sont fiables et arrêtées. C'est ce qu'a fait le ministre en février, justifie l'entourage de Bruno Le Maire.
Et à 19h30, on va en parler avec le député Renaissance Jean-René Cazeneuve, rapporteur général du budget. Et puis la gauche et la droite se sont alliés au Sénat pour dire non à la ratification du traité CETA de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Selon le ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester, c'est une manœuvre grossière, une manipulation inacceptable aux lourdes conséquences pour notre pays. Cela dit, le rejet du Sénat ne suffit pas à lui seul à dénoncer l'accord à l'échelle européenne. Toujours beaucoup de mystères autour de la cinquantaine de lycées d'Île-de-France visés par un piratage informatique. Des élèves ont reçu des messages menaçant leur établissement avec une vidéo de décapitation et cela via les espaces numériques de travail, les ENT. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est adressé aux pirates informatiques qui s'attaquent aux établissements scolaires. Ils seront traqués, retrouvés et sanctionnés.
Ils pensent rester anonymes, mais nous les traquons. Ils pensent être à l'abri, mais nous les sanctionnons. Plusieurs dizaines d'auteurs de ces menaces intervenues ces derniers mois ont d'ores et déjà été judiciarisés. Ils sont actuellement poursuivis par la justice. Des condamnations sont d'ores et déjà intervenues. Je rappelle que pour ce type de menaces, les condamnations peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Nous serons évidemment très vigilants avec le garde des Sceaux à ce que la plus grande fermeté s'applique. C'est absolument inacceptable, inadmissible. On cherche à atteindre à la sérénité nécessaire dans nos établissements scolaires pour les élèves, les familles et les personnels de l'éducation nationale.
Gabriel Attal au micro Europe 1 de Louise Salé. Plus globalement, le Premier ministre annonce une réunion le 4 avril sur la sécurisation de 150 à 200 établissements scolaires plus particulièrement à risque. Juste après ce journal, coup de projecteur sur le piratage informatique. Nous sommes tous concernés. On sera avec Nicolas Arpagian, spécialiste en cybersécurité. N'hésitez pas à lui poser vos questions au 01 80 20 39 21. Il est 19h09 sur Europe 1. Dans un instant, retour sur l'affaire du suicide de la jeune Eva L, 11 ans en 2019. Une enseignante va comparaître en justice pour harcèlement contre la collégienne.
Europe 1 soir.
Europe 1 soir.
Jusqu'à 20h.
Hélène Zélani.
19h11 sur Europe 1, vous vous souvenez peut-être de cette bien triste affaire. Eva L, 11 ans, collégienne du Val d'Oise, avait mis fin à ses jours en 2019. Aujourd'hui, on apprend qu'une enseignante de son collège va devoir s'expliquer devant la justice pour harcèlement, Geoffrey Branger.
Oui, elle est accusée d'avoir humilié régulièrement la fillette, de l'avoir isolée au fond de la classe ou encore d'avoir organisé des heures de cours sur le harcèlement scolaire lors desquelles elle désignait la collégienne comme étant victime de harcèlement par ses camarades et la forçait à répondre à leurs questions. Pour la famille d'Eva L, ce renvoi devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral est un soulagement. Marie, la mère de la fillette.
C'est une très grande satisfaction, c'est ce qu'on attendait depuis 5 ans. On peut parler de soulagement puisqu'on n'a jamais été sûr à 100% qu'il y aurait procès. ça nous aide indéniablement à se dire ce qu'on a vécu, on l'a bien vécu et d'autres personnes sont d'accord avec nous. Si tout s'était terminé il y a quelque temps par un non-lieu, ça aurait été la douche froide.
La qualification initialement retenue d'homicide involontaire fait l'objet d'un non-lieu, mais l'enseignante est également mise en cause pour avoir harcelé deux autres collégiens. Concernant les trois adolescents poursuivis pour avoir harcelé Evaël, un a bénéficié d'un non-lieu et deux sont renvoyés devant le tribunal pour enfants.
Geoffrey Branger, et depuis 2021, cette enseignante ne peut plus donner cours à des mineurs. Elle a une obligation de soins psychologiques. Passer son code, ce n'est pas si difficile et pourtant certains ont trouvé un moyen de l'avoir à tous les coups. Une fraude d'ampleur nationale a en effet été découverte dans les Bouches-du-Rhône. Les candidats payaient quelques centaines d'euros pour obtenir leur code. Sans le passer, Raphaël Benabdel-Moumen.
Oui, en tout, ce sont plus de 1000 candidats qui auraient bénéficié de ce système. Ils auraient payé entre 150 et 1000 euros pour obtenir leur code sans passer l'examen. Derrière ce système frauduleux, 19 personnes, les gérants d'un centre d'examen et d'une auto-école des Bouches-du-Rhône. Ils ont été arrêtés ce lundi par les gendarmes, indique le parquet d'Aix-en-Provence. Des arrestations dans le cadre de l'opération Place Nette menée à Marseille depuis le début de la semaine. 4 prévenus comparaîtront devant le tribunal correctionnel à la mi-avril. Ils sont mis en examen pour escroquerie en bande organisée, blanchiment et corruption, car cette escroquerie leur a rapporté gros, des centaines de milliers d'euros de bénéfices. Mais l'arnaque pourrait aussi se retourner contre ceux qui ont payé pour avoir leur code sans passer l'examen. Le parquet indique qu'ils feront l'objet de poursuites et que leur permis de conduire leur sera retiré.
Et voilà, c'est perdant-perdant. Vous aimez le tennis, ça tombe bien, Europe 1 sera encore la radio officielle du tournoi de Roland-Garros ces 3 prochaines années. Des internationaux de France qui commencent dans 2 mois tout juste et font déjà le plein. La billetterie a ouvert la semaine dernière, Martin Lange, et les places sont parties comme des petits pains.
Oui, en quelques heures à peine, tous les billets se sont arrachés mercredi dernier. Nance fait partie des heureux élus, il va pouvoir enfin découvrir le tournoi de ses rêves.
C'est la première fois que j'y vais, j'ai essayé l'année dernière, j'ai raté. Donc du coup, cette année, j'ai eu un peu plus de chance, c'est un peu un rêve d'enfant, vous voyez les joueurs, etc. à la télé. Et je me disais, ben, pourquoi ne pas y aller, on a la chance d'avoir ça en France. Okay.
Julien, lui, est un habitué, ça fait 25 ans qu'il arpente les cours de la Porte d'Auteuil. En vacances la semaine dernière, il s'est connecté dès 5h du matin pour acheter les précieux sésames.
On ouvre plusieurs navigateurs, enfin, j'avais sur mon téléphone, j'avais sur mon ordinateur plusieurs liens pour essayer d'être le mieux placé possible dans les places, quoi. J'ai eu la finale, j'ai eu les quarts de finale.
L'organisation l'assure, le record de fréquentation, 630 000 spectateurs sur la quinzaine, sera battu cette année. Une fierté pour Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis.
C'est 700 000 personnes dans la file d'attente, c'est tous les billets quasiment vendus. C'est un succès à tous les étages, donc on est vraiment très contents.
Alors si vous n'avez pas encore de place, il reste quelques billets pour les qualifications. L'Opening Week, comme on l'appelle désormais à Roland. Concernant le tour principal, une plateforme de revente sera mise en place début mai.
Roland-Garros, c'est du 20 mai au 9 juin prochain. À suivre donc sur Europe 1, la radio officielle du tournoi. La balle à Claire Lemaître de boursier.com. Claire, Paris s'est offert un nouveau record aujourd'hui.
Un nouveau record en tout début de séance à 8229 points, mais le CAC 40 n'a pas tenu la cadence et il termine à 8179 points ce soir, petite hausse de 0,2%. Actualité rythmée par les banques centrales. Hier soir, la Réserve fédérale américaine a confirmé les espoirs de baisse des taux pour cette année aux États-Unis. 3 baisses de taux, de quoi rassurer les marchés. Des marchés qui montent d'ailleurs partout en Europe, plus 1,8% pour la bourse de Londres. La Banque d'Angleterre estime elle aussi que son économie va dans la bonne direction pour une baisse des taux. Plus 0,9% pour Francfort, plus 1,7% pour Amsterdam. Et à Paris, c'est une hausse plus timide, plus 0,2%, 8179 points.
Merci Claire Lemaître et on passe à la météo avec vous Marlène Duret. Encore une belle journée printanière avant malheureusement une dégradation.
Et oui, il faudra quand même attendre la dissipation des brumes, brouillards, grisailles du matin au nord et à l'ouest du pays, dans les régions centrales aussi. L'impression sera parfois grise et la dissipation peut se faire lentement et ensuite effectivement le soleil s'impose. Alors dès la mi-journée, changement d'ambiance le long des côtes de la Manche et sur une bonne partie de la Bretagne avec l'arrivée de la pluie sous un ciel couvert, dégradation pluvieuse qui touchera en soirée les régions du quart nord-ouest avant de s'enfoncer un petit peu plus dans le pays dans la nuit de vendredi à samedi. Et le vent va se lever un petit peu aussi.
Et les températures, elles devraient commencer à baisser sur la moitié nord demain.
Oui, avant une chute brutale samedi et partout, cette fois, on pourra perdre jusqu'à 10 degrés. Aujourd'hui, je le dis quand même au passage, c'était la journée la plus douce de la semaine. Et oui, par rapport à hier, c'est la hausse des températures minimales qui a été la plus remarquable. Quant aux températures de cet après-midi, on a atteint ou dépassé les 25 degrés dans de nombreuses régions du sud-est et dans le sud-Aquitaine. Alors, je rappelle, on parle de chaleur à partir de 25 degrés. La valeur la plus haute, c'était 26. Et elle a été enregistrée dans le Var ou encore dans les Pyrénées-Orientales et même à Aubenas, en Ardèche. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les températures pour demain. J'y arrive. Comptez 12-13 degrés le long de la Manche et sur la pointe bretonne avant l'arrivée de la pluie, c'est-à-dire qu'il fera plus doux à 11h ou à midi qu'à 16h, par exemple. Sur le reste de la moitié nord, on sera sur du 15 à 21 degrés. Et dans les régions méridionales, 17 du côté du Pays Basque, 18 sur la Côte d'Azur et puis 21 à 25 donc sur le reste de la moitié sud. Mais on peut quand même atteindre les 26 ou 27 degrés localement dans le sud-ouest.
Bah c'est pas si mal, merci Marlène. Il est 19h17 sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 20h. Dans un instant, retour sur ces piratages informatiques qui se multiplient, dernier en date contre des lycées de région parisienne. Comment les éviter? La France est-elle vulnérable à l'approche des JO? On en parle avec le spécialiste des risques numériques, Nicolas Arpagian. À tout de suite.
Europe 1 soir. Europe 1 soir. 19h-20h,
Hélène Zélani.
19h21 sur Europe 1, merci à ceux d'entre vous qui nous rejoignent. Un piratage informatique a donc visé une cinquantaine de lycées de région parisienne via leur espace numérique de travail, on appelle ça l'ENT. Le message parlait de faire exploser l'établissement au nom de l'État islamique avec une vidéo de décapitation. Cette semaine, on a aussi appris l'arrestation de trois personnes, trois jeunes de 20 à 23 ans soupçonnés de la cyberattaque contre France Travail, l'ex-Pôle emploi, ce qui nous a donné envie de poser la question, notamment de notre vulnérabilité face aux attaques informatiques. Et pour en parler, Nicolas Arpagian, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des risques numériques et vice-président du cabinet Edmind Partners. Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. Alors, d'abord, ce piratage des ENT sur lequel on sait finalement assez peu de choses pour l'instant, si ce n'est que le compte d'un jeune a été piraté. Ça a permis d'envoyer des messages à d'autres élèves. Ce type d'espace de travail, il n'est pas sécurisé?
Alors en fait, on a hélas l'expérience, puisque l'année dernière, trois jeunes ont été mis en examen suite à un piratage qui est extrêmement comparable. En l'espèce, ils avaient envoyé un message à l'un d'un lycéen avec prenant l'apparence d'un jeu vidéo, disant qu'il pourrait ainsi télécharger un service lui permettant de progresser dans un jeu vidéo. Le jeune en question a téléchargé l'application, quoi, le logiciel, et à ce moment-là, il s'avère qu'il y avait dedans un outil lui permettant aux attaquants de prendre le contrôle de son ordinateur, donc d'accéder aux éléments préenregistrés. C'était le cas évidemment des identifiants, mots de passe à son espace numérique de travail, et donc ainsi ils ont pu se substituer à lui et communiquer à sa place, puisque le principe même de ces espaces numériques de travail est fait de partager entre parents, élèves, enseignants, et donc c'est un organe de communication, et dès lors qu'on a pris le contrôle de votre identité dans cet espace, ben, on peut parler à votre place et ainsi atteindre une population assez large.
Quand Gabriel Attal dit qu'il va traquer et sanctionner les auteurs, ça vous paraît réaliste ?
Alors, en tout cas, la preuve, c'est qu'on a pu documenter que les personnes qui étaient à la manœuvre lors des intrusions l'année dernière. Donc maintenant, les investigations vont être conduites pour voir si quel a été le mode d'intrusion, quelles ont été leur motivation, puisque dans le cas précédent, c'était des jeunes qui disaient qu'ils cherchaient de l'adrénaline, en tout cas n'étaient pas liés à une mouvance terroriste, malgré la violence de leurs propos. Et là, en l'espèce, nous avons cette fois-ci la publication d'une vidéo de décapitation, qui donc évidemment va susciter le déclenchement de mise en œuvre, enfin de mise en responsabilité juridique, parce que déjà l'intrusion dans les systèmes est évidemment un délit, et c'est le cas de l'apologie ou en tout cas des appels à des actes violents.
Alors Nicolas Arpagian, en ce qui concerne l'attaque contre France Travail, la technique utilisée est différente, on appelle ça le phishing ou hameçonnage. Les pirates ont là réussi à se procurer les codes d'agents. Donc c'est un autre système, et ça c'est un truc auquel on est confronté nous tous quasiment au quotidien.
Alors en fait, vous avez raison, c'est le même dispositif, c'est-à-dire que le pirate a voulu usurper l'identité d'agent légitime, de personne qui travaille au sein de cette institution. Par contre, le fait qu'il y soit parvenu est déjà une performance, ou en tout cas un problème. Par contre, cela pose plusieurs questions quant à l'organisation même de France Travail. Déjà, même si c'est une ou deux personnes dont les comptes ont été piratés, est-ce qu'il est normal qu'on puisse ainsi capter l'intégralité des dossiers des personnes inscrites à France Travail?
43 millions de personnes potentiellement concernées, je rappelle.
Voilà, un peu comme dans une banque, le chargé de clientèle n'a la possibilité de consulter que les comptes qui relèvent de son portefeuille. Il ne peut pas consulter les comptes de son collègue d'à côté. C'est le principe d'un cloisonnement qui est bienvenu parce que précisément quand des piratages de cette sorte surviennent, ça évite que ainsi on puisse naviguer à sa guise dans l'intégralité de la base. Deuxième question, comment est-ce que l'on peut exfiltrer l'ensemble de ces bases de données, même sur une période de plusieurs semaines? Ça veut dire qu'en principe, les systèmes de sécurité sont aussi bâtis pour détecter non seulement les intrusions, mais les sorties, les exfiltrations de données. Sur ce volume, ça pose question sur la présence et le paramétrage de ces outils de supervision. Troisième question, on a des données qui portent sur 2 décennies, 20 ans, c'est bien au-delà de la période recommandée par la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, pour conserver des données personnelles. Quelle est la justification de conserver les dossiers de personnes qui, un temps, il y a plusieurs années, sont passées par France Travail ou ont cherché un emploi par France Travail? Il va falloir expliquer la raison d'être de cette conservation de données qui, évidemment, fragilise les personnes concernées. Pourquoi? Parce que les données que l'on confie à France Travail lorsqu'on s'y inscrit, ce sont ses vraies données, son vrai nom, son vrai numéro de téléphone, en tout cas celui qu'on utilise régulièrement, c'est bien son adresse mail et son numéro de sécurité sociale et d'identifiant France Travail. Bref, il va falloir quand même s'interroger sur la politique de cybersécurité au sein de cet établissement.
Oui, j'imagine que cette cyberattaque contre France Travail, c'est le moment ou jamais peut-être de tout reprendre à zéro en termes de cybersécurité, parce que vous l'avez souligné, il y a quand même beaucoup de problèmes à régler. Le point commun avec cette attaque aussi contre les lycées dont on parlait juste avant, ce sont des organes de l'État. On a aussi beaucoup parlé de ces attaques informatiques contre des mairies, par exemple. Est-ce qu'il y a un moyen de les éviter ?
Alors, il y a déjà, c'est prévisible d'avoir une hausse des attaques des environnements numérisés. Pourquoi ? Parce que le numérique a progressé, s'est intensifié dans nos organisations, et donc l'exposition au risque a d'autant plus accrue parce que nous avons des services administratifs, commerciaux, universitaires dans les domaines de l'économie, des relations interpersonnelles qui sont numérisées. Donc évidemment, ça, de fait, il y a une exposition intensifié au risque. Par contre, c'est là où la réglementation va fixer des obligations, d'une part sur certains types de données, les données personnelles, et c'est la raison pour laquelle la responsabilité d'un gestionnaire, d'une entité qui gère, pilote des données personnelles va pouvoir être mise en cause en cas de perte ou de vol, c'est le cas. Il y a une réglementation assez exigeante et qui prévoit éventuellement des sanctions de manière à inciter à des investissements dans ce domaine. Et puis, il y a des réglementations qui essayent de couvrir des domaines sectoriels, les données de santé, des données concernant ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire ces entreprises qui sont dans des secteurs dont la défaillance mettrait en péril la collectivité. Par exemple, un grand fournisseur d'énergie, dès lors qu'il cesserait ou son activité serait perturbée, ce n'est pas uniquement la perte économique liée à l'arrêt de son activité, c'est évidemment le fait qu'il n'y a plus d'électricité pour faire fonctionner les banques, les hôpitaux, même les domiciles. Vous voyez qu'en cascade, il y a des effets induit. Et donc, c'est la raison pour laquelle la réglementation française, européenne, fixe des obligations. On va avoir aujourd'hui près de 10 000 entreprises, à partir d'octobre prochain, qui vont devoir documenter des procédures particulièrement exigeantes. Alors évidemment, elles empiètent un peu sur l'autonomie du dirigeant, parce que il ne peut pas ou elle ne peut pas considérer que, par exemple, il assumerait la perte qui surviendrait en cas de cyberattaque. On lui dit non, le caractère stratégique de votre activité au sein de la collectivité nationale fait que vous avez des obligations d'investissement. C'est évidemment, il va falloir trouver les têtes bien faites pour procéder à ces déploiements, adopter des technologies et puis des procédures, et enfin les adapter à chaque fois qu'une organisation évolue. Une entreprise, une administration, c'est un corps vivant, il faut l'accompagner également d'un point de vue numérique.
Merci beaucoup Nicolas Arpagian, c'était très précis. Vous êtes président du cabinet Mindpartners, spécialiste des risques numériques et auteur du livre Innocence à crédit aux éditions Mareuil. Dans un instant, les comptes ne sont pas bons. On va parler du déficit public qui dérape et de ce que prévoit le gouvernement pour y remédier. Pour réagir, le 01 80 20 39 21.
Europe 1 soir. Europe 1, le journal permanent.
Une hausse de 38% des assassinats, tentatives d'assassinat entre délinquants et règlements de compte. C'est ce qu'indique un rapport de la police judiciaire. 418 personnes en ont été victimes contre 303 en 2022. Le gouvernement traque les auteurs de menaces envoyées à des lycées de la région parisienne. Annonce de Gabriel Attal, plusieurs dizaines d'auteurs de ces menaces intervenues ces derniers mois ont d'ores et déjà été judiciarisés, rappelle le Premier ministre. Il juge inacceptable ces messages qui cherchent selon lui à atteindre la sérénité nécessaire dans nos établissements scolaires. Gabriel Attal qui annonce aussi la tenue le 4 avril d'une réunion sur la sécurisation de 150 à 200 établissements qualifiés de plus particulièrement à risque. Il promet de nettoyer les trottoirs aux abords face aux gangs et aux deals. Bercy envisage un dérapage du déficit public à 5,6% du PIB en 2023 selon le rapporteur du budget au Sénat, Jean-François Husson, sénateur Les Républicains, qui a mené une mission de contrôle au ministère de l'Économie, dénonce une gestion budgétaire calamiteuse et la rétention d'informations du gouvernement sur ces chiffres. Le traité CETA rejeté par les sénateurs grâce à une alliance gauche-droite. Ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada est décrié par les éleveurs qui voient une concurrence déloyale. Les députés communistes veulent inscrire le texte le 30 mai à l'Assemblée. Et puis après Uber Eats, McDonald's va devenir le partenaire titre de la Ligue 1 de foot. Partenariat signé pour les trois prochaines saisons. Le contrat devrait rapporter 30 millions d'euros par an à la Ligue, soit le double de l'accord actuel.
19h-20h, Europe 1 soir.
19h34 sur Europe 1, les finances publiques sont dans le rouge et encore bien plus que prévu, 5,6% du PIB au lieu des 4,9% attendus pour 2023. L'INSEE va dévoiler le chiffre définitif mardi, mais le gouvernement est déjà sous pression. On en parle avec le député Renaissance Jean-René Cazeneuve. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en ligne sur Europe 1. Vous êtes rapporteur général du budget. Également à mes côtés, Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Alors, on parle de pourcentage, Jean-René Cazeneuve, mais pour être plus clair, ça veut dire un dérapage d'environ 20 milliards par rapport aux prévisions. Comment on en est arrivé là ?
Écoutez, il y a une crise internationale qui n'échappe à personne. Il y a une guerre en Ukraine qui dure. Il y a un conflit qui s'est ouvert en octobre au Proche-Orient et qui a eu aussi un impact sur la croissance mondiale. Et il y a aujourd'hui une douzaine de pays européens qui vont être en récession, hein, ce qui n'est pas le cas de la France, qui vont être en récession en 2023. Donc oui, il y a un renversement de conjoncture. Si vous prenez la croissance européenne, elle était de 3,4% en 2022, elle est de 0,6%, donc il y a un frein, si vous voulez, très important, et on l'a constaté à partir du mois de octobre, novembre, décembre, avec évidemment sur le budget 2023, on ne peut que le constater, hein. Et donc vous avez moins de recettes de TVA parce que la consommation est moins forte que prévu, moins de recettes d'impôt sur les sociétés, moins de recettes sur l'impôt sur le revenu que ce qui était prévu parce que juste simplement la croissance ralentit. Donc et tout ça se traduit. Donc vous avez aussi le déficit de la sécurité sociale qui est un petit peu plus élevé que prévu parce que les hôpitaux sont en déficit aussi plus important que prévu, les collectivités territoriales aussi qui ont un déficit plus important. Voilà, quand vous faites la somme de tout ça, ça amène un dérapage important sur les comptes 2023.
Alors le rapporteur de la commission des finances du Sénat, Jean-François Husson, est allé à Bercy pour contrôler les informations officielles sur l'ampleur de ce déficit. Et en sortant, on peut dire qu'il n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé une gestion budgétaire calamiteuse et la rétention d'informations du gouvernement sur ces chiffres.
Écoutez, c'est vraiment, je pourrais je crains qu'il y ait des calculs politiciens derrière ces propos. Les chiffres officiels, comme chaque année, comme toujours, sont publiés par l'INSEE. Ils arrivent la semaine prochaine. Dès que le gouvernement a su que les comptes seraient moins bons que prévus en 2023, il l'a dit. Donc le ministre Bruno Le Maire a dit que le déficit serait supérieur dès le mois de février, début février, que le déficit serait supérieur à 5%, mais il fallait attendre, et c'est l'INSEE qui fait ce calcul, qui consolide tous les chiffres, il fallait attendre évidemment ce résultat. Vous n'avez aucun intérêt à cacher les résultats, oui, ils sont ce qu'ils sont, et au contraire, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Donc pour que la responsabilité de chacun puisse avoir lieu, il faut qu'on ait tous les chiffres et qu'on partage ces chiffres.
Monsieur Cazeneuve, Baptiste Morin, est-ce que vraiment on a les moyens d'attendre? Parce que ce que dit Jean-François Husson, c'est que dès le mois d'octobre, Bercy savait que les recettes de TVA étaient en baisse. Dans la croissance, la consommation, c'est important. Et donc la TVA, c'est très important. Dès le mois d'octobre, et vous dites que le ministre a pris la parole, c'était en février, c'était donc 4 ou 5 mois plus tard. Est-ce que aujourd'hui, dans l'état de nos finances actuelles, à 110% de dette par rapport au PIB, la France a vraiment les moyens de perdre, entre guillemets, 4 mois et du coup d'avoir une facture qui s'alourdit de 20 milliards d'euros?
Oui, si vous me permettez, on confond deux choses. On confond le déficit 2023 et on a su en fin d'année que le déficit serait plus important. Les recettes sont moins fortes que ce qui était prévu. Et donc, ça, vous ne pouvez plus faire grand-chose, si vous voulez. Quand vous constatez fin novembre, début décembre, que les recettes de TVA sont moins fortes, vous faites quoi? Vous appelez les ministères pour leur dire qu'ils arrêtent de dépenser? Non, vous ne pouvez pas. Donc, si vous voulez, ça, c'est un faux procès. En revanche, sur 2024, dès que le gouvernement a eu les informations sur 2023 qui ont une conséquence sur 2024 et les années qui suivent, il a fait deux choses, et ça il l'a fait très vite dès le mois de février. Il a révisé à la baisse la croissance pour 2024 et il a il a publié un décret d'économie de 10 milliards d'euros. Et d'ailleurs, ceux qui nous reprochent de ne pas avoir pris de décision assez vite, évidemment, on tous dit que ce décret de 10 milliards était scandaleux, etc. etc.
Et donc, est-ce que ça sera suffisant, ces 10 milliards, quand on nous parle d'un dérapage autour du double, finalement?
Écoutez, ça, c'est la grande question. Maintenant, vous savez, c'est difficile aussi dans le contexte global. Moi, je veux bien ceux qui refont le match après coup, mais voilà, dites-moi quand va se terminer la guerre en Ukraine ou comment ça va se passer. Dites-moi comment va se dénouer la guerre au Proche-Orient. Est-ce quand l'Allemagne va être capable de rebondir économiquement, et c'est notre premier partenaire économique, donc c'est important. Dites-moi quand les taux vont baisser. Donc, vous voyez, c'est quand même assez complexe que de prévoir exactement quel va être le fil. Donc c'est sous surveillance. Clairement, l'année 2024 est sous surveillance. On a pris la décision de supprimer 10 milliards de dépenses. Peut-être qu'il faudra faire plus. Donc, ce sera l'occasion éventuellement d'un projet de loi, ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificative, en milieu d'année, si effectivement il fallait prendre des décisions supplémentaires.
Jean-René Cazeneuve, là, vous parlez un petit peu en général, mais si on veut être plus concret, il va falloir aller chercher au moins 20 milliards. Où est-ce qu'on va chercher ces économies?
Alors, 20 milliards, là, on parle de 2025. Attention aussi.
Il faut commencer dès maintenant à se serrer la ceinture, si je peux me permettre.
Mais bien sûr. Donc, les 10 milliards d'annulation de dépenses, si vous voulez, elles peuvent se répercuter évidemment également en 2025. On n'a pas dit qu'on allait rouvrir ces crédits en 2025. Donc on a des réflexions aujourd'hui sur l'assurance chômage. Il faut qu'on ait une réflexion sur nos dépenses sociales. Il faut qu'on ait une réflexion sur les niches, ce qu'on appelle les niches fiscales pour les entreprises, les aides aux entreprises. Donc je crois qu'il faut, mais pas le faire dans la précipitation. Je crois qu'il faut le faire dans la concertation avec nos oppositions. J'attends avec impatience les propositions d'économie de nos oppositions, qui ont plutôt tendance à proposer des dépenses supplémentaires de manière générale. Il faut le faire avec les différents ministères. La majorité
les oppositions
travaillent sur des pistes d'économie.
Jean-René Cazeneuve, les oppositions vont vous répondre. On veut bien proposer, mais il faut encore que le gouvernement ouvre le débat et c'est ce qu'a l'air de regretter aussi Jean-François Husson, c'est ce qui transparaissait dans les auditions de Thomas Cazenave et de Bruno Le Maire, que ce soit à la commission des finances de l'Assemblée puis ensuite au Sénat, et d'ailleurs surtout au Sénat, c'est le regret de se dire on est face à un gouvernement qui, sachant qu'il a une majorité relative, finalement avance un peu tout seul, un peu sans faire ce travail parlementaire, en tout cas le laisser faire. Est-ce que vous le regrettez? Vous faites partie quand même de l'Assemblée nationale, vous avez aussi ce rôle de représenter le Parlement.
Vous avez raison, je pense que et ce que je retiens, si vous voulez, je pense que ce qui est important, c'est qu'on est dans une situation difficile, très difficile, parce que notre pays a connu des crises successives très importante, que l'État est intervenu massivement pendant la crise du Covid, pour protéger les Français de l'inflation. Donc chacun en a bénéficié, mais ça, si vous voulez, ça a pesé de manière significative sur nos dépenses. Et je crois que plutôt que de faire aujourd'hui de la politique politicienne, si vous me permettez l'expression, je crois qu'il est essentiel. Et vous avez raison, le gouvernement doit aussi écouter sa majorité, qui a aussi des idées d'économie ou d'optimisation des dépenses publiques. Il faut qu'on se retrouve tous autour de la table et qu'on se dise comment on fait pour sortir notre pays de cette passe difficile. Je vous rappelle que la guerre est aux portes de l'Europe.
Comment sortir notre pays de cette passe difficile? Eh bien, il y a du pain sur la planche, Jean-René Cazenave. Je vous remercie beaucoup d'avoir été en direct sur Europe 1, député Renaissance, rapporteur général du budget. Merci à vous également, Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. On va marquer une pause et on va parler de la fécondité mondiale qui ne cesse de baisser d'ici 2100. La population va diminuer dans de nombreux pays. Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21.
Un soir, 19h-20h,
Hélène Zélani.
19h47 sur Europe 1, on fait de moins en moins d'enfants. Ça concerne quasiment le monde entier avec des conséquences considérables. Voilà ce que montre l'étude publiée aujourd'hui dans la revue scientifique The Lancet. Bonsoir professeur Samir Amama.
Bonsoir.
Vous êtes gynécologue responsable du département de biologie de la reproduction au CHU de Montpellier. Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1 pour nous permettre de mieux comprendre cette étude. On apprend que l'indice de fécondité moyen en 2050 sera autour d'1,8 enfants par femme dans le monde. Et c'est en dessous du seuil de renouvellement de la population qui est à 2,1 enfants par femme. Ça pourrait encore chuter d'ici la fin du siècle. Pourquoi d'abord cette baisse de la fécondité?
Si vous voulez, la baisse des fécondités, là, ça peut expliquer par plusieurs facteurs, dont la baisse de la natalité, la mortalité, la migration et surtout l'augmentation de l'infertilité.
C'est votre sujet de prédilection. Hein. Vous êtes spécialiste dans les problèmes d'infertilité. Est-ce que ces problèmes ils prennent de plus en plus d'ampleur?
Absolument. Si vous voulez, la dernière enquête dans 195 pays montrait que l'infertilité augmente de l'ordre de 0,3 à 0,4% chez l'homme et chez la femme respectivement. Mais en parallèle à ça, il y a une baisse de natalité quasiment partout dans la planète, hormis le continent africain. La force de cette étude à laquelle vous faites allusion, qui vient d'être publiée dans la The Lancet, il a été fait dans 204 pays. Il suffit de regarder les nombres de co-auteurs. Ils sont plus d'une centaine, sponsorisés par la fondation de Bill Gates. Elle montre quoi? Vous venez de le dire, on a un indicateur populationnel pour que les gens comprennent bien qu'on l'appelle l'indice conjoncturel de fécondité, étant le seuil de 2,1, le renouvellement générationnel ou le seuil de remplacement. Effectivement, à partir de 2050, la Terre entière, y compris l'Afrique, tout le monde décroche. Il y aura une baisse de natalité. Donc, mais si on regarde cet indice en Europe aujourd'hui, regardez la France, entre 2010 et 2023, on est passé de 1,84 à 1,68. Mais regardez l'Italie, pas très loin d'ici, 1,2. L'une des mesures natalistes que l'Italie a mise en place depuis janvier 2022, elle propose 250 euros par mois dès le 7e mois de grossesse jusqu'à l'âge de 21 ans de la personne. Si on part un peu loin vers la Corée du Sud, son indice aujourd'hui, il est à 0,75 ils sont au rouge. Eh bien, elles proposent depuis trois semaines, ils ont décidé l'une des mesures natalistes pour relancer la politique nataliste, eh bien, de 75 000 euros à la naissance. Donc, autrement dit, oui, la baisse de la population mondiale va chuter pour atteindre, comme vous disiez d'ailleurs, 1,6 cet indice en 2100. L'Inde, qui aurait imaginé aujourd'hui l'Inde, pour 2 milliards d'habitants, elle se trouve tout juste au seuil du remplacement. Mmh. Donc c'est la raison pour laquelle, je pense, parmi les causes sociétales, je pense qu'il faut dire un mot, aujourd'hui, il suffit de regarder la moyenne d'âge de premier accouchement en France, pour ne pas aller loin, il est aux alentours de 31 ans et 2 mois. Il y a 30 ans, on était à 24 ans. Donc ces reculs d'âge provoquent quelque chose, une forme d'infertilité qu'on aurait pu éviter.
Alors, professeur Amama, excusez-moi de vous interrompre, il y a l'infertilité qui est un problème majeur, vous l'avez dit, mais il y a aussi des personnes qui ne veulent pas d'enfants et je voudrais qu'on prenne en ligne Ulrich qui nous appelle de Seine-Maritime. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous appeler. Vous avez fait le choix de ne pas avoir d'enfants.
Et en effet, c'est ça. J'ai 43 ans aujourd'hui, enfin j'ai 43 ans cette année on va dire, et j'ai pris cette décision il y a environ une dizaine d'années, voire un peu plus, entre mes 30 et 35 ans.
Pour quelles raisons ?
Pour diverses raisons différentes. En premier lieu, disons que dans le fond j'avais plus ou moins pris cette décision-là. Mais je me suis vraiment rendu compte, comme je vous ai dit, entre mes 30 et 35 ans. Une des raisons principales, c'est par rapport à mon enfance, ce que j'ai pu vivre, subir. Et je m'étais juré que si un jour j'étais amené à avoir un enfant, il n'était pas question qu'il vive ou qu'il subisse ce que moi j'ai vécu. Or, il s'avère que, malheureusement, un enfant qui a subi des choses peut reproduire ce cadre à son propre enfant. Donc j'avais déjà ça en tête. Et puis arrivé, je vous dis, vers 2013-2014, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que beaucoup de choses allaient de mal en pis autour de moi.
Vous parlez sur le plan économique ?
Économique, sécurité, sociétale, plein de choses. Et je me suis dit, ce serait égoïste en fait. Et en plus, je vois que finalement, j'ai pas tort parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça sent quand même mauvais, on va dire. Je suis assez pessimiste là pour le coup. Faut dire, c'est vrai, mais j'ai envie de dire d'un côté, je suis assez réaliste. Et je m'étais dit, laisser un enfant dans ce monde-là, même s'il arrive à faire beaucoup d'études, il peut très bien finir hôtesse de caisse dans un hypermarché, on ne sait pas. J'ai pas envie qu'il
ce qui n'est pas honteux d'ailleurs, il faut le souligner.
J'ai fait ce métier-là, j'ai travaillé dans un hypermarché aussi. Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas envie qu'il vienne me voir à ses 20 ans en me disant « Mais papa, t'as vu, même si tu m'as donné ce que t'as pu, même si t'as fait ce que t'as pu, je suis dans un monde qui ne me plaît pas, et puis t'as vu ce qui se passe autour. » J'ai l'impression que ce serait un peu égoïste de ma part.
Votre point de vue, et vous n'êtes pas le seul à l'exprimer de cette manière-là. Je vous remercie beaucoup, Ulrich. Quand on entend, professeur Amama, cet auditeur qui a 43 ans et qui dit que ce serait limite égoïste d'avoir des enfants, c'est une position qu'on entend de plus en plus. Il y a l'éco-anxiété. Alors ça, je parle des pays occidentaux parce que d'autres pays ne se posent pas à ce genre de problèmes n'en sont pas là et ont plus des problèmes de subsistance. Mais dans les pays occidentaux, on se pose beaucoup cette question d'avoir des enfants. On se dit que finalement, on les fait affronter un monde terrible.
Non mais, j'entends parfaitement les messages de cet auditeur. Il dit quoi ? Il a des raisons personnelles. C'est son droit la plus absolue. Il y a 30% des hommes et des femmes en âge de procréer qui ont exprimé les souhaits de ne pas avoir d'enfants. Mais si on regarde deux choses, la première, est-ce que la société française aujourd'hui permet à un homme ou à une femme en âge de procréer de pouvoir concilier entre sa vie professionnelle et sa vie de famille ? La réponse est non. c'est l'une des causes, l'une des raisons, l'une des causes de l'infertilité qu'on aurait pu éviter si on se compare avec les pays nordiques. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois, il faudra même nous qu'on change de discours, parce que quand on dit il y a un changement climatique, ce qui est vrai, il y a la disparition de l'écosystème, ce qui est vrai, il y a l'altération de la biodiversité, ce qui est vrai, mais de quoi parlons-nous ? On parle de l'être vivant. Et l'homme dans tout ça, ce n'est pas un être vivant ? Et puis troisièmement, quand vous dites uniquement dans les pays entre guillemets industrialisés où il y a une chute de natalité, mais moi je ramène dans l'un des pays les plus pauvres de la planète, le Sierra Leone, en Afrique subsaharienne. Et il y a deux siècles, la femme, elle faisait 8 enfants. Aujourd'hui, elle fait à peine 3,8 enfants. Donc si vous voulez, cette chute s'est amorcée depuis deux siècles de chute de natalité. On ne sera jamais 10 ou 15 milliards, comme j'entends et je lis à droite, à gauche. Je crois que cet indicateur populationnel, elle montre clairement que la plupart des pays au monde, dans les 5 continents, la santé reproductive s'altère chez l'homme et chez la femme, auxquelles il faut rajouter les raisons personnelles, comme votre auditeur vient de l'indiquer. Ça fait l'angoisse, la peur de l'emploi, la peur d'un avenir difficile pour son enfant, que je comprends parfaitement, 40% des places manquantes en crèche. Donc tout ça, ça rentre, parce que la natalité baisse, si on prend les résultats, les données françaises de 2022, 678 000 naissances, mais ça baisse dans toutes les catégories d'âge, sauf chez les femmes de 40 ans jusqu'à 50 ans, on a noté 3% d'augmentation. Donc la femme active, la femme chef d'entreprise, la femme chef de service, etc.
Merci, merci beaucoup professeur Samir Hamama d'avoir été en direct sur Europe 1. Vous êtes gynécologue responsable du département de biologie de la reproduction au CHU de Montpellier.
Europe 1 soir.
Et merci à vous tous de nous avoir suivis sur Europe 1. Rendez-vous demain et passez une excellente soirée avec la France Bouge. Bonsoir Elisabeth Assayag, quel est votre programme ?
Bonsoir Hélène Zélani. Mais vous savez que demain, c'est la journée mondiale de l'eau. Alors une France Bouge consacrée à la préservation de cette ressource naturelle. Comment préserver, comment redistribuer l'eau, les bienfaits de l'eau minérale. Pour en parler, je reçois la patronne des sources d'eau minérale du groupe Danone et évidemment des start-up qui proposent des solutions françaises autour de l'eau. À tout à l'heure dans la France Bouge.